chapitre 56. Cette saleté de livre. Les lumières se font si lointaines. La tempête ne s'arrête jamais. Je suis brisé et tous sont morts autour de moi. Je pleure la fin de toute chose. Il a gagné. Oh, il nous a battus. Daté de Pala à Kiev, 1173. 16 secondes avant la mort. Sujet, un marin Thaïlen. Dalinar se battait, le frisson palpitant en lui, frappant avec sa lame d'éclat du haut de sa selle. Autour de lui, les Parchendi tombaient avec les yeux brûlés. Ils venaient à lui par paires, chaque équipe cherchant à l'atteindre depuis une direction différente afin de le garder occupé et, espérait-il, désorienté. Si une paire pouvait se précipiter vers lui alors qu'il était distrait, elle réussirait peut-être à le pousser à bas de sa monture. Ses haches et ses masses, leurs moulinets à répétition, pouvaient fendre sa cuirasse. C'était une tactique très coûteuse. Des corps jonchaient le sol autour de Dalinar. Mais lorsqu'on se battait contre un porte-éclat, toutes les tactiques l'étaient. Dalinar gardait vaillant en mouvement. Il restait légèrement en avant de la ligne formée par ses hommes. Un porte-éclat avait besoin d'espace pour se battre. Les lames étaient si longues qu'il existait un réel danger de blesser ses propres compagnons. Sa garde d'honneur n'approcherait que s'il tombait ou se trouvait en danger. Le frisson l'exaltait, lui prêtait force. Il n'avait plus ressenti cette faiblesse, cette nausée éprouvée sur le champ de bataille quelques semaines auparavant. Peut-être s'était-il inquiété pour rien. Il fit se tourner vaillant juste à temps pour affronter deux paires de Parchendi qui l'attaquaient par derrière en chantant tout bas. Il dirigeait le cheval à l'aide de ses genoux, tout en portant un expert coup de taille qui traversa le cou de deux Parchendi, puis le bras d'un troisième. Les yeux des deux premiers brûlèrent et ils s'effondrèrent à terre. Le troisième lâcha son arme d'une main qui retomba soudain inerte, tous les nerfs tranchés. Le quatrième membre du groupe s'éloigna avec un regard noir à Dalinar. C'était l'un des Parchendi qui ne portait pas de barbe, et il semblait y avoir quelque chose d'étrange dans son visage. La structure des joues était légèrement différente. « Était-ce une femme ?» se demanda Dalinar, stupéfait. « Impossible, mais j'aurais juré. » Derrière lui, ses soldats poussèrent des acclamations en voyant un grand nombre de Parchendi se replier pour se regrouper plus loin. Dalinar baissa sa lame d'éclat dont le métal luisait, tandis que des sprennes de gloire apparaissaient autour de lui dans les airs. Il y avait une autre raison s'il restait à l'écart de ses hommes. Un porte-éclat n'était pas qu'une force de destruction. Il était également une force d'inspiration, agissant sur le moral des troupes. Les hommes se battaient avec une vigueur accrue lorsqu'ils voyaient leur clarissime terrasser un adversaire après l'autre. Les porte-éclats transformaient l'issue des combats. Comme les Parchendi étaient brisés pour le moment, Dalinar mit pied à terre et se laissa tomber sur les rochers. Des corps dépourvus de toute trace de sang jonchaient le sol autour de lui, mais, lorsqu'il approcha de l'endroit où ses hommes se battaient, du sang rouge-orangé maculait les pierres. Des crémillons détalaient sur le sol, lapant le liquide, et des sprennes de douleur se tortillaient entre eux. Des Parchendi blessés étaient étendus le regard tourné vers le ciel, le visage crispé en un masque de douleur, chantant tout bas pour eux-mêmes une chanson obsédante. Elle n'était souvent qu'un murmure. Ils ne criaient jamais lorsqu'ils mouraient. Dalinar sentit le frisson le déserter, tandis qu'il rejoignait sa garde d'honneur. « Il s'approche trop de Vaillant, » dit Dalinar à Téleb en lui tendant les rênes. La robe de l'immense Richadium était constellée de sueur écumeuse. « Je ne veux pas le mettre en danger. » Demandez à quelqu'un de le ramener dans les lignes arrières. » Téleb hocha la tête et fit signe à un soldat d'exécuter l'ordre. Dalinar souleva sa lame d'éclat et balaya le champ de bataille du regard. L'armée Parchendi se regroupait. Comme toujours, leur stratégie reposait sur des équipes de deux hommes. Chacun d'eux devait avoir des armes différentes, et l'un des deux était souvent rasé de près tandis que l'autre portait une barbe où des gemmes étaient tressées. Les érudits de Dalinar suggéraient qu'il devait s'agir d'une sorte d'apprentissage primitif. Dalinar inspecta ceux qui étaient rasés en quête de barbe naissante. Il n'y en avait aucune, et plusieurs avaient le visage de forme légèrement féminine. Les imberbes pouvaient-ils être des femmes? Ils ne semblaient pas posséder grand-chose qui évoque des saints, et leur carrure était semblable à celle des hommes. Mais l'étrange armure parchendi pouvait masquer les choses. Ceux qui n'avaient pas de barbe semblaient effectivement plus petits de quelques doigts, et la forme de leur visage, en les étudiant, ça semblait possible. Ces paires pouvaient-elles être formées de maris et de femmes se battant ensemble? Il trouva l'idée étrangement fascinante. Était-il possible que, malgré 6 années de guerre, personne n'ait pris le temps d'enquêter sur le sexe de ceux qu'il combattait? Oui. Les plateaux contestés étaient si reculés que personne ne rapportait jamais de cadavres de Parchendi. On chargeait simplement des hommes de retirer les gemmes de leur barbe ou de rassembler leurs armes. Depuis la mort de Gavilar, on avait fait très peu de tentatives pour étudier les Parchendi. Tous voulaient simplement les voir morts, et s'il y avait une chose pour laquelle les Aleti étaient doués, c'était pour tuer. Et tu es justement censé être en train de les tuer, se dit Dalinar. Pas d'analyser leur culture. Mais il décida de demander à ses soldats de récupérer quelques cadavres pour les érudits. Il chargea en direction d'une autre partie du champ de bataille, tenant sa lame d'éclat à deux mains devant lui, s'assurant de ne pas distancer ses soldats. Au sud, il voyait flotter la bannière d'Adoline, qui menait sa division vers les Parchendi. Le garçon s'était montré ces derniers temps d'une réserve inhabituelle. Son erreur vis-à-vis de Sadéas semblait l'avoir rendu plus pensif. À l'ouest, la bannière de Sadéas flottait fièrement, tandis que ses hommes tenaient les Parchendi à l'écart de la chrysalide. Il était arrivé le premier, comme précédemment, engageant le combat avec les Parchendi afin de laisser aux compagnies de Dalinar le temps d'arriver. Dalinar avait envisagé d'extraire le cœur de Gemme afin que les Aleti puissent se retirer, mais pourquoi mettre fin si vite à la bataille? Sadéas et lui avaient le sentiment que le but véritable de leur alliance était d'écraser le plus grand nombre de Parchendi possible. Plus ils tuaient, plus vite cette guerre prendrait fin. Et pour l'instant, le plan de Dalinar fonctionnait. Les deux armées se complétaient. Les attaques de Dalinar avaient été trop lentes jusqu'à présent, ce qui permettait aux Parchendi de trop bien se placer. Sadéas était rapide, d'autant plus maintenant qu'il pouvait laisser des hommes en arrière et se concentrer pleinement sur la vitesse. Et il était d'une effrayante efficacité pour amener les hommes sur les plateaux afin qu'ils s'y battent. Mais ces hommes n'étaient pas aussi bien entraînés que ceux de Dalinar. Par conséquent, si Sadéas parvenait à arriver le premier, puis à résister assez longtemps pour que Dalinar fasse traverser ses hommes, la supériorité de son armée en matière d'entraînement et d'éclat fonctionnait tel un marteau contre les Parchendi, les écrasant contre l'enclume de Sadéas. Mais ça n'avait rien de facile. Les Parchendi se battaient comme des démons des gouffres. Dalinar se précipita vers eux, agitant sa lame, tuant des Parchendi des deux côtés. Il ne pouvait s'empêcher d'éprouver malgré lui un certain respect pour eux. Peu d'hommes osaient attaquer directement un porte-éclat, du moins passant la masse de leur armée en train de les pousser vers l'avant, presque contre leur gré. Ces Parchendi attaquaient avec bravoure. Dalinar pivota, distribuant les coups, tandis que le frisson montait en lui. Avec une épée ordinaire, un combattant se concentrait sur le contrôle de ses coups, et il s'attendait au recul lorsqu'il frappait. Il fallait des coups rapides avec peu d'ampleur. Les lames d'éclat étaient différentes. Il n'y avait jamais de recul. Porter un coup donnait quasiment l'impression de fendre l'air. L'astuce consistait à contrôler la vitesse acquise et à garder l'épée en mouvement. 4 Parchendi se jetèrent sur lui. Il semblait savoir que le combat très rapproché était l'une des meilleures façons de le faire tomber. S'ils approchaient trop, la longueur de la poignée de sa lame et la nature de son armure lui compliqueraient les choses pour se battre. Dalinar pivota, porta un coup ample à hauteur de la taille et constata la mort des Parchendi à la légère traction exercée sur la lame lorsqu'elle traversa leur poitrine. Il les tua tous les 4 en éprouvant une bouffée de satisfaction, immédiatement suivie par une sensation de nausée. « Damnation, » se dit-il, « ça recommence. » Il se retourna vers un autre groupe de Parchendi, tandis que les yeux des morts brûlaient et fumaient. Il se lança dans une autre attaque. leva sa lame en arc de cercle au-dessus de sa tête, puis l'abaissa parallèlement au sol. Six Parchendi moururent. Il éprouva une bouffée de regret mêlée de mécontentement à l'idée d'éprouver le frisson. Ces Parchendi, ces soldats, devaient certainement mériter le respect, pas la jubilation, tandis qu'on les massacrait. Il se rappela les occasions où le frisson avait été le plus fort, lorsqu'il soumettait les hauts princes en compagnie de Gavilar dans leur jeunesse, repoussait les Védènes, combattait les Herdasiens et massacrait les Réchis d'Akak. À une occasion, la soif du combat l'avait presque conduit à attaquer Gavilar en personne. Dalinar se rappelait la jalousie éprouvée ce jour-là, une dizaine d'années auparavant, où le désir d'attaquer Gavilar, le seul adversaire valable qu'il ait vu alors, l'homme qui avait gagné la main de Navani, avait failli le consumer. Sa garde d'honneur poussait des vivats en voyant tomber ses adversaires. Il se sentait vide, mais il s'accrocha au frisson et reprit le contrôle de ses émotions et de ses sentiments. Il laissa le frisson l'envahir tout entier. Fort heureusement, le malaise se dissipa, ce qui était une bonne chose, car un autre groupe de Parchendi le chargea par le côté. Il pivota selon la posture du vent, changea de pied d'appui, baissa son épaule et projeta son poids derrière sa lame alors même qu'il frappait. Il en atteignit trois d'un seul geste, mais le quatrième et dernier Parchendi dépassa ses camarades blessés pour approcher de Dalinar, agitant son marteau. Il ouvrait de grands yeux de rage et de détermination, mais ne criait pas. Il continuait simplement à chanter. Son marteau s'écrasa contre le casque de Dalinar. Il repoussa sa tête sur le côté, mais la cuirasse absorba la majeure partie du coup, et quelques lignes aussi fines qu'une toile d'araignée apparurent à la surface. Dalinar les voyait luire faiblement, dégageant de la fulgiflamme au bord de son champ de vision. Le Parchendi était trop proche. Dalinar baissa sa lame. Elle se changea en brume tandis que Dalinar levait un bras en armure pour parer le coup de marteau suivant. Puis il frappa de son autre bras, écrasant son poing contre l'épaule du Parchendi. Le coup jeta l'homme à terre. Le chant du Parchendi s'interrompit. Serrant les dents, Dalinar s'avança pour lui asséner un coup de pied en pleine poitrine et le projeta à plus de 6 mètres. Il avait appris à se méfier des Parchendi qui n'étaient pas totalement neutralisés. Dalinar baissa les mains et entreprit de réinvoquer sa lame d'éclat. Il se sentait de nouveau fort. Il retrouvait sa passion pour le combat. « Je ne devrais pas avoir mauvaise conscience de tuer les Parchendi, » se dit-il. « Nous avons raison de le faire. » Il marqua un temps d'arrêt en remarquant quelque chose. Qu'était-ce donc là, deux plateaux plus loin? On aurait dit une deuxième armée Parchendi. Plusieurs de ces groupes d'éclaireurs se précipitaient vers les lignes de combat principales, mais Dalinar devinait quelles nouvelles ils apportaient. « Père des tempêtes !» jura-t-il en pointant sa lame d'éclat dans cette direction. « Donnez l'alerte! Une deuxième armée approche !» Plusieurs hommes s'éparpillèrent en obéissant à son ordre. « Nous aurions dû nous y attendre, » songea Dalinar. « Nous avons commencé à amener deux armées sur le plateau, alors ils ont fait de même. » Mais ça sous-entendait qu'il s'était limité jusque-là. Le faisait-il parce qu'il comprenait que les champs de bataille laissaient peu de place pour manœuvrer? Ou était-ce pour des questions de vitesse? Mais c'était absurde. Les Aléthis devaient se soucier des ponts comme goulots d'étranglement, qui les ralentissaient de plus en plus s'ils amenaient davantage d'hommes. Cependant, les Parchendi pouvaient sauter par-dessus les gouffres. Alors pourquoi ne pas amener la totalité de leurs troupes? Maudit soit-il, se dit-il frustré. Nous savons si peu de choses à leur sujet. Il planta sa lame d'éclat dans la pierre près de lui, la plaçant de sorte qu'elle ne se volatilise pas. Il se mit à crier des ordres. Sa garde d'honneur se rassembla autour de lui, rejointe par des éclaireurs tandis que des messagers s'en éloignaient. L'espace d'un bref instant, il devint un tacticien plutôt qu'un guerrier. Il leur fallut du temps pour modifier leur stratégie de combat. Une armée ressemblait parfois à un chul massif qui se traînait pesamment et tardait à réagir. Avant que ces ordres ne puissent être exécutés, la nouvelle armée Parchendi se mit à traverser vers le côté nord. C'était là que Sadeas se battait. Dalinar n'y voyait pas très bien, et les rapports des éclaireurs tardaient trop. Il lança un regard sur le côté. Il y avait une haute formation rocheuse non loin de là. Elle avait des parois irrégulières, qui lui donnaient un peu l'aspect d'un tas de planches empilées. Il s'empara de sa lame d'éclat en plein milieu d'un rapport et se mit à courir sur le sol de pierre, écrasant quelques boutons de roche sous ses bottes de plate. La garde cobalt et les messagers s'empressèrent de le suivre. Parvenu à la formation rocheuse, Dalinar jeta sa lame sur le côté et la laissa se volatiliser. Il sauta, agrippa le rocher et entreprit de le gravir. Quelques secondes plus tard, il se hissait sur son sommet aplati. Le champ de bataille s'étendait à ses pieds. L'armée Parchendi principale formait une masse rouge et noire au centre du plateau, à présent cernée des deux côtés par les Alétis. Les équipes de pont de Sadea s'attendaient sur un plateau à l'ouest, ignorées de tous, tandis que la nouvelle armée Parchendi traversait depuis le nord en direction du champ de bataille. Père des tempêtes, quel saut ! Se dit Dalinar tout en regardant les Parchendi franchir le gouffre par bond puissant. 6 années de combat lui avaient appris que les soldats humains, surtout s'ils portaient une armure légère, pouvaient battre à la course les soldats Parchendi s'ils devaient parcourir plus de quelques dizaines de mètres. Mais les jambes épaisses et puissantes des Parchendi pouvaient les envoyer loin lorsqu'ils sautaient. Pas un seul Parchendi ne perdit l'équilibre en franchissant le gouffre. Ils s'en approchaient au trot, puis accéléraient vivement sur 3 mètres environ pour prendre leur élan. La nouvelle armée progressait vers le sud, droit vers l'armée de Sadeas. Levant la main pour se protéger de la vive lumière du soleil, Dalinar s'aperçut qu'il distinguait la bannière personnelle de Sadeas. Elle se trouvait exactement sur le chemin de l'armée Parchendi qui approchait. Il restait généralement à l'arrière de ses armées, en sûreté. À présent, cette position devenait soudain le front, et les autres hommes de Sadeas étaient trop lents pour rompre le combat et réagir. Ils n'avaient pas le moindre soutien. Sadeas, se dit Dalinar en s'avançant vers le rebord rocheux, la cape flottant au vent derrière lui. Je dois lui envoyer mes lanciers de réserve. Mais non, il serait trop lent. Les lanciers ne pouvaient pas l'atteindre, mais un cavalier y parviendrait peut-être. Vaillant ! Hurla Dalinar en se jetant au bas de la formation rocheuse. Il tomba sur les rochers en contrebas, sa cuirasse absorba l'impact et fendit la pierre. De la fulgiflamme s'éleva tout autour de lui, s'échappant de son armure, et les jambières grincèrent légèrement. Vaillant échappa à ses gardiens, galopant parmi les pierres pour répondre à son appel. Quand le cheval approcha, Dalinar saisit les poignées de la selle pour se hisser en place. « Suivez-moi si vous le pouvez » cria-t-il à sa garde d'honneur. « Et envoyez un messager prévenir mon fils que c'est lui qui commande l'armée à présent !» Dalinar fit se cabrer Vaillant, puis se mit à galoper en bordure du champ de bataille. Ses gardes appelèrent leurs chevaux, mais ils auraient du mal à suivre l'allure d'un richadium. Qu'il en soit donc ainsi. Les soldats en train de se battre se fondaient en une masse floue sur la droite de Dalinar. Il se pencha bien bas sur la selle, le vent sifflait sur sa cuirasse d'éclat. Il tendit les doigts et invoqua Justicière. Elle tomba dans sa main, fumante et glacée, tandis qu'il faisait contourner à Vaillant la pointe ouest du champ de bataille. Comme il l'avait prévu, la première armée Parchendi se trouvait prise entre sa propre armée et celle de Sadeas. Il n'avait pas le temps de les contourner. Prenant une profonde inspiration, Dalinar s'élança donc en plein milieu. Leur manière de se battre avait dispersé leurs rangs. Vaillant galopa à travers les rangs des Parchendi, qui s'écartaient vivement du chemin de l'étalon massif, jurant dans leur langue mélodieuse. Ses sabots martelaient bruyamment les pierres. Avec ses genoux, Dalinar le pressait d'avancer. Ils devaient conserver leur élan. Quelques Parchendi qui se battaient à l'avant contre l'armée de Sadeas firent volte-face pour se précipiter vers lui. Ils virent une occasion à saisir. Si Dalinar tombait, il se retrouverait seul, entouré de milliers d'ennemis. Le cœur de Dalinar cognait à tout rompre tandis qu'il brandissait sa lame, cherchant à frapper les Parchendi qui avançaient trop près. Quelques minutes plus tard, il approchait de la ligne Parchendi au nord-ouest. Là, ses ennemis se mirent en ligne, levant leur lance pour la caler contre le sol. « Bourrasque !» se dit Dalinar. Les Parchendi n'avaient encore jamais levé ainsi leur lance contre la cavalerie lourde. Ils commençaient à apprendre. Dalinar chargea vers la formation puis fit pivoter Vaillant au dernier moment pour se retrouver parallèle au mur de lance Parchendi. D'un coup de côté de la lame d'éclat, il en trancha les pointes et atteignit quelques bras. Droit devant lui, un carré de Parchendi hésita. Dalinar prit une profonde inspiration, poussa Vaillant droit vers eux et trancha encore quelques pointes. Une autre rebondit sur l'épaule de son armure et Vaillant reçut une longue entaille au flanc gauche. Dans leur élan, ils piétinèrent les Parchendi et Vaillant, avec un hennissement, jaillit de l'autre côté de la ligne Parchendi, tout près de l'endroit où l'armée principale de Sadéas engageait le combat avec l'ennemi. Le cœur de Dalinar battait violemment. Il remonta l'armée de Sadéas à toute vitesse, galopa vers les lignes arrières où une masse chaotique et bouillonnante d'hommes désorganisés tentait de réagir à l'arrivée de cette nouvelle armée Parchendi. Des hommes hurlaient et mouraient, allaitis en vert forêt mêlés aux Parchendi en noir et rouge. Là, Dalinar vit la bannière de Sadéas claquer un instant avant de tomber. Il se jeta au bas de la selle de Vaillant et heurta les pierres. Le cheval se détourna, comprenant la situation. Sa plaie était sérieuse, et Dalinar ne voulait pas l'exposer davantage au danger. Le massacre devait continuer. Il se précipita vers l'armée Parchendi depuis le côté, et certains se retournèrent, un éclat de surprise dans leurs yeux noirs habituellement stoïques. Parfois, les Parchendi semblaient étrangers, mais leurs émotions étaient tellement humaines. Le frisson monta en lui, et il ne le repoussa pas, il en avait trop besoin. Un allié était en danger. Il était temps de libérer l'épine noire. Dalinar se fraya un chemin à travers les rangs des Parchendi. Il les abattait comme un homme balaie les miettes d'une table après un repas. Il n'y avait ici aucune précision, aucun engagement prudent de quelques escouades avec sa garde d'honneur à l'arrière. C'était une attaque frontale, avec toute la puissance et la force mortelle de quelqu'un qui avait passé sa vie à tuer, renforcé par les éclats. Il était pareil à une tempête, tranchait les jambes, les torses, les bras, les coups, tuait sans s'arrêter. Il était un maelstrom de mort et d'acier. Les armes ricochaient sur son armure, n'y laissant que de minuscules fissures. Il tuait des soldats par dizaines, toujours en mouvement, se forçant un chemin vers l'endroit où la bannière de Sadéas était tombée. Les yeux brûlaient, les épées étincelaient dans le ciel, et les Parchendi chantaient. La poussée de leurs propres troupes, qui s'agglutinaient en atteignant la ligne de Sadéas, les inhibait. Mais pas Dalinar. Il n'avait pas à se soucier de frapper ses amis, ni à s'inquiéter que son arme se retrouve prise dans la chair ou coincée dans une armure. Et si des cadavres se trouvaient sur son chemin, il les cisaillait. La chair morte se laissait couper comme le bois et l'acier. Des gerbes de sang Parchendi jaillissaient dans les airs, tandis qu'il tuait, tranchait, se frayait un chemin dans la mêlée. La lame de l'épaule au flanc, d'avant en arrière, il se retournait parfois pour frapper ceux qui tentaient de le tuer par derrière. Il trébucha sur un carré de tissu vert, la bannière de Sadéas. Dalinar tourna sur lui-même, cherchant alentour. Il avait laissé derrière lui une ligne de cadavres en train de se faire piétiner rapidement mais prudemment par d'autres Parchendi qui cherchaient à l'atteindre, sauf sur sa gauche immédiate. Aucun des Parchendi qui se trouvait là ne se retournait vers lui. « Sadéas !» se dit Dalinar qui s'élança, terrassant des Parchendi par derrière. Il découvrit ainsi un groupe de soldats agglutinés en cercle qui frappaient quelque chose à leurs pieds. Quelque chose qui laissait échapper de la fulgiflamme. Sur le côté, gisait un grand marteau de porte-éclat, abandonné là où Sadéas l'avait laissé tomber. Dalinar se précipita, lâcha sa lame et s'empara du marteau. Il hurla tout en l'abattant sur le groupe, projetant une dizaine de Parchendi loin de lui, puis se retourna pour frapper de l'autre côté. Des corps jaillirent dans les airs, projetés en arrière. Le marteau était plus efficace à cette distance. La lame aurait simplement tué les hommes et fait tomber leur corps à terre, le laissant malgré tout coincé par la masse compacte. Le marteau, en revanche, projetait les corps au loin. Il bondit au milieu de la zone qu'il venait de dégager et plaça un pied de chaque côté de Sadéas, tombé à terre. Il entreprit de réinvoquer sa lame tout en agitant le marteau autour de lui pour éparpiller ses ennemis. Au 9e battement de son cœur, il projeta le marteau à la tête d'un Parchendi, puis laissa Justicière se reformer dans ses mains. Il adopta aussitôt la posture du vent, regard baissé. L'armure de Sadéas laissait échapper de la fulgiflamme par une dizaine de cassures et de fêlures différentes. Le plastron avait été entièrement fracassé. Des morceaux de métal brisés, tranchants, saillaient, dévoilant l'uniforme en dessous. Des volutes de fumée luminescente s'échappaient des trous. Il n'avait pas le temps de vérifier s'il était toujours vivant. Les Parchendi voyaient à présent non pas un, mais deux porte-éclats à leur portée, et ils se jetèrent sur Dalinar. Les guerriers tombaient l'un après l'autre tandis que Dalinar les massacrait à gestes amples, protégeant l'espace immédiatement autour de lui. Il ne pouvait pas tous les arrêter. Son armure encaissait des coups, surtout sur le dos et les bras. L'armure se fissurait, comme un cristal soumis à une pression trop grande. Avec un grand cri, il abattit quatre Parchendi tandis que deux autres le frappaient par derrière, faisant vibrer son armure. Il pivota pour en tuer un, tandis que l'autre lui échappait de justesse. Dalinar se mit à haleter, et lorsqu'il bougeait rapidement, il laissait dans les airs des traînées de fulgiflammes. Il se sentait comme une bête de proie ensanglantée qui cherche à repousser d'un seul coup un millier de prédateurs aux mâchoires avides. Mais il n'était pas un chul, dont la seule protection consistait à se cacher. Il tuait, et le frisson enflait en lui. Il percevait un danger véritable, un risque de chute, ce qui décuplait le frisson. Il s'en étranglait, le plaisir, la jubilation, le désir, le danger. Des coups de plus en plus nombreux atteignaient leur cible. Des Parchendi de plus en plus nombreux parvenaient à esquiver sa lame. Il sentit le vent s'engouffrer dans le dos de son plastron. Rafraîchissant, terrible, effrayant. Les fissures s'élargissaient. Si le plastron éclatait, il hurla, abattit sa lame à travers le corps d'un Parchendi, brûlant ses yeux, l'abattait sans lui laisser une seule marque sur la peau. Dalinar leva sa lame, pivota, trancha les jambes d'un autre adversaire. Une tempête d'émotions faisait rage en lui, et son front ruisselait de sueur sous son casque. Qu'arriverait-il à l'armée Aleti si Sadéas et lui tombaient tous deux ici? Deux hauts princes morts lors de la même bataille, deux cuirasses et une lame perdue? Ça ne pouvait pas se produire. Il n'allait pas tomber ici. Il ignorait encore s'il était fou ou non. Il ne pouvait pas mourir avant de le savoir. Soudain, une vague de Parchendi qu'il n'avait pas attaqué tomba. Une silhouette vêtue de cuirasse d'éclat d'un bleu éclatant jaillit au travers. Adoline tenait d'une seule main sa lame d'éclat massive dont le métal luisait. Adoline frappa de nouveau et la garde Cobalt se précipita, s'engouffrant par la brèche qu'Adoline avait créée. La chanson des Parchendi acquit un nouveau tempo, plus frénétique, et ils reculèrent tandis que des soldats de plus en plus nombreux traversaient les rangs, certains vêtus de vert, d'autres de bleu. Dalinar s'agenouilla, épuisé, et laissa disparaître sa lame. Ses gardes l'entouraient, et l'armée d'Adoline déferla sur eux, forçant les Parchendi à reculer. En l'espace de quelques minutes, la zone fut sécurisée. Le danger était écarté. « Père !» dit Adoline en s'agenouillant près de lui et en retirant son casque. Les cheveux blonds et noirs du jeune homme étaient en désordre et trempés de sueur. « Bourrasque, vous m'avez fait une de ces peurs. Est-ce que tout va bien ?» Dalinar dégagea son propre casque et l'air doux et rafraîchissant baigna son visage humide. Il prit une profonde inspiration, puis hocha la tête. « Tu arrives au bon moment, mon fils. » Adoline aida Dalinar à se remettre debout. « J'ai dû traverser l'armée Parchendi tout entière. Sans vouloir vous manquer de respect, père, qu'est-ce qui vous a pris de tenter un exploit pareil ?»«
La certitude que tu saurais diriger l'armée si je tombais. » répondit Dalinar en assénant une tape sur le bras de son fils dans un cliquetis de cuirasse. Adoline entrevit le dos de la cuirasse d'éclat de Dalinar et ouvrit de grands yeux. « C'est grave ?» demanda Dalinar.
« On dirait qu'elle est maintenue en place par de la ficelle et de la salive, » répondit Adoline. « Vous perdez de la fulgiflamme comme une outre sur laquelle on s'entraîne au tir à l'arc. »
Dalinar hocha la tête en soupirant. Sa cuirasse lui semblait déjà trop lente. Il allait sans doute devoir la retirer avant qu'il ne regagne le camp, pour éviter qu'elle ne gèle sur lui. Sur le côté, plusieurs soldats dégageaient Sadéas de sa cuirasse. Elle était tellement endommagée que la flamme avait disparu, à l'exception de quelques minuscules volutes.
C'était réparable, mais ce serait coûteux. La régénération de la cuirasse d'éclat faisait généralement éclater les gemmes dont elle tirait sa flamme. Les soldats retirèrent le casque de sa déesse, et Dalinar eut le soulagement de voir son ancienne amie cligner des yeux, l'air désorienté mais globalement indemne. Il avait une entaille à la cuisse, là où l'un des Parchendi l'avait atteint d'un coup d'épée, et quelques éraflures sur la poitrine. Sa déesse leva les yeux vers Dalinar et Adoline. Dalinar se crispa, s'attendant à des récriminations. Tout ça ne s'était produit que parce que Dalinar avait insisté pour se battre avec deux armées sur le même plateau, ce qui avait poussé les Parchendi à amener une autre armée. Dalinar aurait dû poster des éclaireurs pour guetter ce genre de choses. Sa déesse, cependant, afficha un large sourire. « Père des tempêtes, ce n'est pas passé loin. Comment se déroule la bataille ?»« Les Parchendi sont dominés, » dit Adoline. « La dernière force à résister était celle qui se trouvait autour de vous. Nos hommes sont en train de dégager le cœur de Gem en ce moment même. La victoire est à nous. »«
Nous avons encore gagné, »
s'exclama sa déesse, triomphant. « Dalinar, une fois de temps en temps, il semble que votre vieux cerveau sénile soit capable de produire une ou deux bonnes idées. » « Nous avons le même âge, sa déesse, » commenta Dalinar tandis que des messagers approchaient, apportant les rapports du reste du champ de bataille.
« Faites passer le mot, » proclama sa déesse. « Ce soir, tous mes soldats festoieront comme s'ils étaient des pâles iris. »
Il sourit, tandis que des soldats l'aidaient à se relever, et Adoline s'en alla recueillir les rapports des éclaireurs. D'un geste, sa déesse repoussa l'aide qu'on lui offrait, signalant avec insistance qu'il pouvait se tenir debout malgré sa blessure, et se mit à appeler ses officiers. Dalinar se retourna pour chercher Vaillant et s'assurer que l'on soignait la blessure du cheval. Mais sa déesse lui saisit alors le bras. « Je devrais être mort, » dit sa déesse tout bas.
« Peut-être. »
« Je n'ai pas distingué grand-chose, mais il m'a semblé vous voir seul. Où était votre garde d'honneur ?»«
J'ai dû la laisser en arrière, » répondit Dalinar. « C'était le seul moyen de vous atteindre à temps. »
Sa déesse fronça les sourcils.
« C'était un risque terrible, Dalinar.
Pourquoi ?»«
On n'abandonne pas ses alliés sur un champ de bataille. Pas à moins qu'il n'y ait aucun recours. C'est l'un des codes. »
Sa déesse secoua la tête. « Votre honneur vous fera tuer, Dalinar. »
Il semblait perplexe.
« Non que je m'en plaigne aujourd'hui, notez bien. »
« Si je devais mourir, » répondit Dalinar, « je le ferais en ayant vécu ma vie comme il se devait. Ce n'est pas la destination qui compte, mais la façon dont on y parvient. »«
Les codes ?»«
Non, la voix des rois. » »«
Cette saleté de livre ?»«
Cette saleté de livre vous a sauvé la vie aujourd'hui, sa déesse, » dit Dalinar. « Je crois que je commence à comprendre ce que Gavilar y voyait. »
Sa déesse fronça les sourcils mais lança un regard à son armure, qui reposait en pièces non loin de là. Il secoua la tête.
« Peut-être que je vais vous laisser m'expliquer ce que vous voulez dire. J'aimerais vous comprendre à nouveau, mon vieil ami. Je commence à me demander si je l'ai jamais fait. »
Il lâcha le bras de Dalinar.
« Que quelqu'un m'amène mon cheval. Où sont mes officiers ?»
Dalinar repartit et trouva rapidement plusieurs membres de sa garde en train de s'occuper de Vaillant. Lorsqu'il les rejoignit, il fut frappé par le nombre de cadavres à terre. Ils formaient une ligne là où il avait traversé les rangs des Parchendi pour atteindre sa déesse, une piste de mort. Il se retourna vers l'endroit où il s'était battu.
Des dizaines de morts, peut-être des centaines. Sang de mes pères,
se dit Dalinar.
Est-ce moi qui ai fait ça ?
Il n'avait pas tué autant depuis l'époque lointaine où il aidait Gavilar à unir Aletkar. Et il n'avait pas éprouvé de dégoût face au spectacle de la mort depuis sa jeunesse. Et pourtant, à présent, il se sentait révolté, à peine capable de garder son estomac sous contrôle. Il n'allait pas vomir sur le champ de bataille. Ses hommes ne devaient pas voir ça. Il s'éloigna en titubant, une main sur la tête, l'autre portant son casque. Il aurait dû être en train de jubiler, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait tout simplement pas.
« Je vous souhaite bien de la chance pour essayer de me comprendre, » Sadéas, se dit-il, parce que j'ai le plus grand mal de toute la damnation à essayer de le faire moi-même.